Nikotisikhot Chelek Raf Alef, Sikha sur Purim. Par rapport à l'histoire de Purim, on a un midrash qui nous raconte l'histoire suivante. Lorsque Haman venait de signer son décret, il est tombé sur Mordechai. Et Mordechai, il était en train de suivre quelques enfants qui sortaient de l'école. Il les a rattrapés. Il a demandé à ses trois enfants, « Dites-moi, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui à l'école? Quel verset vous avez appris aujourd'hui ?» Le premier lui a dit, « Al tira mi parat pitom », c'est un verset dans les proverbes Michelet, qui dit « N'aie pas peur d'une crainte soudaine et du décret des méchants qui arrive. » Le deuxième enfant, il lui dit « Moi, aujourd'hui, le dernier verset que j'ai appris, c'est le suivant. « Utsu et tsavetufar » ils ont eu un conseil, mais ce sera annulé. Ils ont dit quelque chose, mais ça ne s'accomplira pas parce que Dieu est avec nous. » Et le troisième enfant, il a dit, le verset qu'il a appris, c'était « Ve'adzikna aniou », ça veut dire « Dieu sera avec moi même dans ma vieillesse, il va me soutenir, c'est Dieu qui m'a fait, c'est Dieu qui me porte, c'est Dieu qui me soutient, qui me sauvera. » Quand Mordechai il a entendu ça, il a souri, il a ri et il a été très joyeux. Et quand Haman il a vu que Mordechai était tellement joyeux, il lui a dit « Mais qu'est-ce qui te réjouit tellement ?» Il lui a répondu « Maintenant je viens d'avoir une bonne nouvelle, c'est que le décret que tu es en train de faire, il ne s'accomplira pas. Et j'ai pas peur de toi. » Alors à ce moment-là, Haman il s'est énervé, il lui a dit « Je jure que ce par qui je vais commencer mon décret, ce sera ces enfants-là. » Alors ça, on sait que c'est une manière assez courante dans la Gemara d'avoir une espèce de prophétie. On demande à un enfant « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ?» et le verset qu'il va citer, c'est censé être un message. C'est quelque chose qu'on voit très souvent dans la Torah. Donc on comprend la réaction de Mordechai ici. Il voit en ça une prophétie que le peuple juif va triompher. Mais il y a beaucoup trop de détails sur lesquels on a encore des questions. Pourquoi on nous dit que c'est des enfants qui sortent de l'école? Pourquoi on nous dit qu'ils sont trois et qu'on a trois versets qui sont dans cet ordre-là précisément? Qu'est-ce que ça vient de nous apprendre? On sait que même l'ordre dans la Torah, il est important. Donc si on a cité ces trois versets dans cet ordre-là, ça doit nous apprendre quelque chose. Surtout que ce n'est pas l'ordre dans lequel ces versets ils apparaissent dans la Torah. Normalement, un enfant, il apprend les versets dans l'ordre. D'abord la Torah, après les prophètes, après les écrits. Michelet, ça fait partie de la dernière partie. Et pourtant, il a cité un verset de Michelet en premier. Et quand on regarde un peu les détails, on voit que le premier, tout de suite, il cite le verset sans rien dire d'autre. Le deuxième, il dit « Moi, aujourd'hui, la dernière chose que j'ai apprise à l'école, il cite pas juste le verset. Pourquoi lui, il parle plus que les autres ? Est-ce que ça veut dire que lui, il a appris plein de versets et il a cité juste le dernier et que les autres, ils ont appris qu'une seule chose ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Et encore, surtout, une très grande question qu'il y a ici, c'est que on nous dit que tout de suite après avoir signé le décret, il y a eu cette scène de Haman qui suit Mordechai et qui parle aux enfants, et Mordechai qui se réjouit et qui est très content. Alors que quand on regarde les versets de la Megillah, parce que là on est dans le Midrash, mais les versets eux-mêmes de la Megillah, ils nous disent quoi? Ils nous disent que quand Mordechai il a appris le décret d'Haman, il a déchiré ses vêtements, il a commencé à se lamenter, à se mettre en deuil, à prier, à pleurer. Ici, on est en train de nous dire que justement, à ce moment-là, il était en train de se réjouir. Donc comment on peut faire marcher le Midrash avec le sens simple des versets de la Megillah? Alors pour comprendre tout ça, il faut revenir déjà à la raison pour laquelle Haman il a fait ce décret contre les Juifs. Qu'est-ce qui l'a poussé? Il y a le sens simple des versets qui nous donne une raison simple, et il y a la raison que le Midrash évoque. C'est quoi la différence? Le sens simple des versets, il nous dit la chose suivante. Haman, il a demandé que tout le monde se prosterne devant lui, et il a vu que Mordechai ne se prosternait pas. Et à ce moment-là, il s'est renseigné. Pourquoi ? Pourquoi Mordechai ne se prosterne pas devant moi ? Parce qu'il est juif. Et les juifs, ils ont une interdiction de se prosterner devant toute idole, toute idolâtrie ou même devant une personne. Donc la raison pour laquelle lui ne se prosterne pas devant moi, c'est parce que sa religion, son peuple, sont contre le fait de se prosterner devant moi. Donc c'est pas seulement lui que je dois exterminer, c'est tout son peuple qui est problématique. C'est pas juste parce que lui c'est le plus grand des rabbins de son époque, c'est pas parce que c'est le chef du tribunal, c'est parce que c'est écrit dans sa religion, donc c'est valable pour tous les juifs. Donc en vérité, ils ont tous quelque chose qui les empêche de se prosterner à 100% devant moi. Donc il faut absolument que je les extermine tous. Le Midrash il nous dit la chose suivante. Pourquoi Haman il a réussi à établir ce décret? Forcément qu'il s'agit d'une accusation céleste à cause d'une faute qui a été commise. De quelle faute on parle? Le Midrash y raconte que tous les juifs, alors il y a deux avis selon différents avis, soit ils se sont tous prosternés devant une idole, soit ils se sont tous prosternés devant Haman et c'était considéré comme de l'idolâtrie. Et on sait que même, alors c'est sûr que les juifs ils l'ont fait uniquement par crainte, parce qu'ils ne voulaient pas mourir, et ils savaient qu'ils encouraient quelque chose de grave s'ils n'écoutaient pas. Donc ils l'ont fait seulement de manière superficielle, extérieurement. Mais on sait que l'idolâtrie, elle est tellement grave que, quelque part, même si on a flanchi, on a flanché à cause d'une menace extérieure, à cause de quelque chose qui était indépendant de notre volonté et à cause d'une peur, alors on n'est pas considéré comme si on avait vraiment accompli la faute. Mais l'idolâtrie, c'est quelque chose qui est tellement grave, qui remet tellement en question toute l'existence du juif, toute la parcelle divine du juif, la Torah tout entière. Alors, même dans ce cas-là où ils ont écouté uniquement superficiellement, mais à aucun moment ils ont cru en cette idole, à aucun moment ils ont voulu servir cette idole, ils se sont juste prosternés extérieurement, même ça, quelque part, ça a entaché l'étincelle divine, l'étincelle de judaïsme qu'il y avait à l'intérieur d'eux. À tel point que ce décret a pu avoir lieu. L'idolâtrie, elle est tellement grave que même un tout petit peu d'idolâtrie, même extérieurement, ça entache déjà l'âme du juif. Et quand Mordechai, il a entendu ses enfants avoir une prophétie qui annonçait des bonnes nouvelles, c'est sûr qu'il s'est réjoui. Mais il savait qu'il y avait un travail à faire néanmoins. Il sait très bien que, ok, Dieu maintenant il m'a donné son assurance que les juifs ils vont réussir à faire tchouva. Ils vont réussir à surmonter cette épreuve. Mais c'est pas en faisant rien. Il faut que, à leur tour, ils réveillent justement cette étincelle divine qui a été entachée. Il faut qu'ils la révèlent, qu'ils la fassent ressortir. Comment? En priant, en jeûnant, en revenant vers Dieu, en étant prêt à donner sa vie, en ne se convertissant pas et en restant juif malgré le décret. Ils allaient faire ressortir leur étincelle divine, leur étincelle de judaïsme. Et c'est ça qui allait permettre d'annuler le décret de Haman. Donc d'un côté, il s'est réjoui. D'un autre côté, il savait qu'il y avait un travail à faire. Il fallait pleurer, il fallait implorer Dieu, il fallait prier, il fallait faire tchouva, jeûner, etc. Alors ici, le rabbi, il explique la chose suivante. C'est que ces trois versets, ils représentent trois niveaux de confiance en Dieu différents. Le premier verset, il dit « N'aie pas peur d'une crainte soudaine à cause du décret des méchants. » Donc ici, il y a un décret, mais on n'a pas peur de ce décret. Ça, c'est un premier niveau. On renforce sa foi en Dieu en sachant que Dieu va nous protéger, que tout est pour le bien et qu'on n'a absolument aucune crainte, tout va bien se passer. Le deuxième verset, il nous dit quoi? Ils ont essayé de manigancer quelque chose, mais ils n'ont pas réussi, il n'y a rien qui sortira de là. Ici, il n'y a pas encore eu de décret. C'est-à-dire qu'on a un niveau de confiance en Dieu tellement fort que le décret n'a même pas le temps de se concrétiser. Le décret ne peut même pas aboutir, ne peut même pas sortir. Et là, il dit « parce que Dieu est avec nous ». Là, on donne une raison. Et enfin, on a le troisième verset qui nous dit « même dans ma vieillesse, Dieu va me supporter, Dieu va m'aider, Dieu va me sauver ». Là, on ne parle même pas de décret. On n'est même pas en train de dire qu'il y a un décret ici. On est juste en train de dire que même les choses naturelles de la vie, le fait de vieillir, même les règles de la nature qui peuvent nous apporter des obstacles, même de ça, on n'a pas peur. Et même ça, on va au-dessus. C'est pour ça, là, on ne dit même pas « Dieu est avec nous ». On dit « Dieu, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui me soutient ». C'est même pas parce que Dieu est avec nous, c'est que Dieu et moi, c'est une seule et même chose à ce moment-là. On est complètement au-dessus de la nature. Et ces trois niveaux, finalement, c'est aussi trois niveaux d'éducation chez l'enfant. On voit qu'au début de son éducation, au début de son apprentissage, l'enfant, il répond tout de suite, inversé. On lui apprend qu'il faut avoir peur de rien, uniquement craindre Dieu. Ensuite, quand il grandit un petit peu, il dit « moi, j'ai appris plusieurs versets aujourd'hui, voilà le dernier ». C'est-à-dire qu'il commence déjà à connaître des choses. Et après, il donne une raison. « Mais Dieu est avec nous ». Et ensuite, on a le troisième niveau d'apprentissage, où l'enfant, il est complètement conscient qu'il a en lui une force qui lui permet d'être au-dessus des règles de la nature. Et ici, le détail qui est mis en valeur, c'est que Mordechai, il a vu ses enfants qui sortaient de l'école. Il n'aura pas posé cette question dans un cadre scolaire. Maintenant, on est à l'école, je vais t'interroger. Ici, il est en train de leur dire, vous êtes dans la rue, vous êtes en train de rentrer chez vous. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a marqué aujourd'hui? Et c'est ça que les enfants, ils ont dit. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Ces enfants-là, ils ont bien compris le fait que le judaïsme et la Torah, c'est pas uniquement quand on est à la synagogue, c'est pas uniquement quand on est à l'école, c'est quelque chose qu'on doit vivre tous les jours, dans notre vie au quotidien, partout et tout le temps. C'est quelque chose qui doit imprégner tous les recoins de l'âme de chaque juif, dans toute situation. Et c'est ça qui a tellement réjoui Mordechai. Parce qu'il a compris que ces enfants-là, ils allaient rentrer chez eux, ils allaient parler de ce qu'ils ont appris. Ils allaient faire vivre ce judaïsme authentique aussi chez eux à la maison, même chez ceux qui ont perdu cette étincelle. Donc c'est ça, c'est pour ça que le Midrash il dit c'est ça la bonne nouvelle qu'il a entendu Mordechai. Il dit pas il a entendu la prophétie, il dit la bonne nouvelle. Parce que ici, Quelque part, la prophétie, c'est une chose, et c'est vrai, mais c'est pas ça qu'on met en valeur ici. On met en valeur le fait que Mordechai, il a été rassuré. Tous les juifs, ils ont une étincelle divine qui brille, qui va éclairer et qui va les sauver. Et même ceux qui ne sont pas encore à ce niveau-là, ces enfants-là, ils vont leur apprendre et ils vont leur amener cette lumière qui va leur permettre d'être sauvés du décret. Et en vérité, ces enfants-là, c'est eux la continuité du peuple juif qui va permettre de faire en sorte que les autres non plus ne feront pas l'idolâtrie. Et c'est pour ça que Aman, il a dit, c'est eux que je vais détruire en premier. Et on sait très bien que on nous dit que à Purim, les juifs, ils ont accepté la Torah. C'est là qu'ils ont vraiment accompli la Torah. C'est vrai qu'au don de la Torah au mont Sinaï, ils ont accepté, mais quelque part, ils étaient un peu forcés. Alors, on ne va même pas évoquer le Midrash avec la montagne sur la tête, etc. Mais l'acceptation du don de la Torah, c'était en quelque sorte quelque chose de forcé. Ils n'avaient pas tellement le choix et ils ont accepté de manière uniquement potentielle. C'est quand qu'ils ont prouvé qu'ils ont vraiment accepté la Torah sur eux, c'est au moment de Pourim où ils ont été prêts à se sacrifier pour la Torah et les mitzvot. Et comme au don de la Torah, on a dit que les enfants, c'était les garants du peuple juif. C'est grâce à eux que Dieu a accepté de donner la Torah. Ici aussi, dans l'histoire de Purim, c'est les enfants qui ont été les garants du peuple juif. Et de la même manière qu'à Purim, on a accompli les choses de manière concrète, pas seulement en potentiel, ici aussi, ces enfants, ils se sont pas contentés d'accepter la Torah qu'ils ont étudiée et ce que leurs parents, ce que leurs professeurs leur ont appris. C'est eux-mêmes qui ont été vivre cet enseignement et l'enseigner aussi à leurs parents qui se sont éloignés, et à le faire vivre autour d'eux et à l'accomplir de par eux-mêmes. Et ça, c'est l'enseignement de cette sicha. La pérennité du peuple juif, elle passe par les enfants. Et par le fait qu'ils vont vivre la Torah qu'ils ont apprise, pas seulement à l'école, pas seulement à la synagogue, mais dans la vie de tous les jours, au quotidien, chez eux, à la maison, une fois qu'ils sont sortis des murs de l'école. Ils vont montrer qu'ils ont peur de rien, que Dieu est avec nous, que le peuple juif, il est au-dessus des règles de la nature. Et c'est eux qui vont ramener leurs parents vers la Torah. C'est ça, la génération qui précède la venue de Mashiach, qui a aussi cette caractéristique que les enfants vont ramener les parents à la Torah. C'est eux qui vont assurer la pérennité du peuple juif et nous permettre d'amener la venue de Mashiach et la délivrance très bientôt, Bézrat Hachem.